Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous. Une petite précision avant l'épisode du jour. Il a été enregistré début décembre pour sa sortie initiale au cinéma. Et puis finalement, cette sortie a été annulée. Contrairement à ce qui est annoncé dans le podcast, Sacrée Sorcière fait finalement sa sortie directement en Blu-ray et en DVD ce 17 mars 2021. Une édition collector est également prévue pour le 21 avril sous forme de steelbook. Bonne écoute!
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine, avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, pour cet épisode de Noël, j'ai le plaisir de retrouver Eric.
Bonsoir Clémence.
Rafik.
Salut.
Yannick.
Salut.
Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, c'est toujours Alain.
Salut Clémence.
Et c'est la Tex qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle du nouveau film de Robert Zemeckis, Sacrée Sorcière. Adapté du roman de Roald Dahl, il raconte l'histoire de Bruno, un jeune orphelin qui vient vivre chez sa grand-mère. Le petit garçon et sa mamie partent en vacances dans un hôtel en bord de mer, pile au moment où se tient en secret un grand colloque qui réunit des sorcières du monde entier autour de leur grande chef. Alors contrairement au roman initial, là l'histoire se déroule en Alabama en 1967. Dans le roman de Roald Dahl, ça se passait en Angleterre dans les années 80. Et ce roman avait déjà été adapté par Nicolas Roeg en 90, avec Angelica Houston dans la peau de la sorcière en chef. Dans la version 2020, c'est Anna Taoué qui reprend le flambeau. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs? C'est l'heure du moment pyramide dans la critique express. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi?
Monstrueux.
Emmêlé.
Performance. J'utilise un terme parce que Yannick, il a pas réfléchi du tout. Il était en train de faire « Ah, qu'est-ce que je vais trouver ?»
J'y pense jamais à ces putains de mots.
Mais
là,
c'est vrai que moi, j'y pense pas trop non plus sur celui-là. J'y ai pas trop pensé. Mais je dirais performance, mais c'est cohérent avec le cinéma de Zemeckis.
Ah, je vais dire mon expression favorite. Mi figue, mi raisin.
D'où amer.
Tu l'as déjà utilisé.
Ah, merde,
au bout de trois.
Ça va être ça à chaque fois.
À chaque fois qu'il réfléchit pas, il dit mi figue, mi figue, mi raisin.
Tous les clichés de mauvais critiques français. Mi figue, mi raisin.
Voilà.
D'où amer. Pétillant.
Pétillant.
Un bon film du samedi soir.
Donc, bon,
pour amateur du genre.
C'est Noël. Je ne suis pas persuadée pour autant que vous allez être super gentil avec ce film. On va le voir tout de suite.
Pas trop méchant.
C'est Rafik. Pas Rafik.
Méchant, il va être
c'est
méchant.
C'est moi qui je serai le schtroumpf grognon de cette émission.
Ça va être la négation de l'épisode sur Manque.
C'est ça.
Moi je trouve que ça c'est déjà c'est un genre qu'on voit pas assez et moi c'est comme ça que j'ai
mais
commencé.
Laisse-la lancer l'émission.
Voilà. Bon, je vous préviens, maintenant je vais faire la gueule du coup.
Non, mais pour la peine, on va commencer avec quelqu'un d'autre. Ouais, donc bah, le grand méchant Rafik.
Oui.
Rafik, toi tu n'as pas aimé ce film?
Non, j'ai pas aimé ce film. Je pense aimer Zemeckis. Je dis bien je pense parce qu'il m'est arrivé des fois d'être très très en froid avec lui quand il fait des films comme comment s'appelait le truc avec Michel Pfeiffer.
Apparence.
Apparence, voilà. Quand en fait quand il se perd dans ses propres tics de mise en scène, Zemeckis c'est quelqu'un qu'on sait qui a toujours, enfin, je pense qu'on devrait le savoir, qui a toujours fait avancer le cinéma dans une certaine direction, qui est obsédé par l'idée d'obtenir des effets visuels parlants, et donc du coup de travailler les effets spéciaux en vue de créer une imagerie qui puisse parler d'elle-même. Des fois, ça envoie dans des voies sans issue. Parfois, ça donne des miracles à côté de ça. Moi, je suis un grand partisan de toute sa vague performance capture, notamment sur un film comme Beowulf, etc. Je sais qu'il est très critiqué encore aujourd'hui pour ça. Et je regrette qu'il soit revenu à un cinéma entre guillemets live, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité de The Witches, hein, qui est un film qui est, comme tous les films de Zemeckis, qui a été pratiquement fait en post-prod plus que sur le plateau. Mais à chaque fois, il arrive à mêler son avancée technologique avec un vrai fond, un vrai propos de fond. Il cherche à atteindre quelque chose qui était inatteignable avant. Et là, dans The Witches, je vois même pas ce qu'il cherche à atteindre, en fait. C'est-à-dire que le film commence avec des propositions, et ces propositions-là, elles restent vraiment en suspens. Le film commence plutôt bien, bon, déjà parce qu'il y a une très belle photo, c'est superbement cadré, etc. Donc, ça, vu le contexte actuel, ça fait toujours plaisir de voir des films qui sont faits par des cinéastes, avec un plan qui joue sur une idée d'inversion qui est assez chouette, puisqu'on a un flashback qui fait découvrir le gamin. Dans une voiture avec de la neige, des flocons de neige qui sont en train de monter vers le haut de l'écran, avant qu'on comprenne qu'en fait sa voiture est retournée et qu'il a survécu à l'accident qui vient de tuer ses parents. Donc quand un film commence comme ça, tu dis bon, là j'ai un mec qui va me raconter une histoire avec des images, etc. Mais là tu viens de me mettre aussi un thème qui m'intéresse. On va parler de sorcières, de nana qui déteste les enfants. Tu nous présentes un plan qui est une inversion, donc tu vas jouer sur ce concept même de l'inversion de ce qui est beau devient laid, de ce qui est laid devient beau, etc. Bon, bref, apparemment pas du tout. Et à chaque fois que dans le film...
Ouais, bah t'as fantasmé un film, toi.
Non, mais ça, on suit ensuite sa récupération psychologique, oui. Avec sa grand-mère qui essaie de le faire revivre. On passe 10 bonnes minutes, comme, enfin, peut-être j'exagère, mais enfin, on passe un certain moment avec vraiment cette dame qui essaie de faire revenir cet enfant à la vie. Donc, c'est touchant. T'as envie de t'intéresser à à ce qu'elle essaie de faire revivre chez lui. Et pareil, ça aussi, ça reste en suspens. Dans le reste du film, cette idée que cet enfant a été ressuscité, elle n'est même plus exploitée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées en l'air et qui ne retombent pas. Et à la place, on a une espèce de ride qui, moi, m'a un peu...
Est-ce que ça ne serait pas parce que c'est un film, justement, qui a deux auteurs, en l'occurrence, hein, parce que c'était à la base un projet, en fait, qui est de Guillermo del Toro, qui voulait faire en stop motion, en fait, c'est-à-dire en animation image par image, ce qui est plutôt, moi, je trouve, une bonne idée, en fait, d'adapter ce roman-là sous cet angle-là, avec, je pense, du coup, quand Zemeckis a récupéré le scénario, en fait, il a mis sa propre touche à lui. Pour le coup, lui, il est parti dans ses logiques de performance capture, d'où le terme performance. Et je trouve que pour le coup, ce qui est intéressant, moi, dans ce film-là, justement, c'est, certes, il n'est plus dans la logique de performance capture pure et dure qu'il avait sur Beowulf, sur Le Pôle Express, sur Scrooge. Mais par contre, en fait, en revenant même au cinéma live, en fait, il ne perd pas du tout ça de vue. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qu'il a aussi traité dans le film précédent, hein, j'ai oublié le titre français.
Marwen,
c'est ça, ouais. Mmh. Bienvenue à Marwen. Et bon, certes, de manière plus cohérente, puisqu'en fait, clairement, on avait un monde de poupées et un monde réel, et du coup, une vraie distinction, on va dire, entre les deux méthodologies, disons, de cinéma, enfin, je sais pas. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sens qu'il y a encore des restes du cinéma de Del Toro. Je pense, en fait, que le setting, justement, en Alabama, dans les années 60, je pense que ça vient de Del Toro.
Voire même le casting de l'actrice.
Évidemment, puisqu'elle était dans La Forme de l'eau. Mais, en fait, avec quelque chose de l'ordre d'essayer de faire un film plus sage, peut-être, moins... comment dire, et en fait, même si Zemeckis peut le faire... Moi, je trouve que j'ai un problème surtout avec la fin, moi. Tout ce que tu avances sur ce qui existe au début, c'est vrai pour moi, et ça me suffit quelque part à m'emporter. C'est-à-dire, je me dis, ok, ces personnages existent, j'y crois, ils traitent ce sujet-là. Moi, j'ai plus un problème avec l'idée, et qui est dans le roman, hein, en plus, c'est ça qui est assez dingue, en fait, que dans la fin, il faut absolument, malgré le fait qu'on garde l'idée initiale, et là, je spoil, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, en fait, que l'enfant reste une souris, puisqu'ils sont transformés en souris, il faut absolument tempérer le mal-être qui est généré en fait par le roman, et c'est-à-dire vraiment faire ah mais c'est trop cool d'être une souris, on a un parc d'attractions.
Je vais mourir vite.
Non mais on a un parc d'attractions à nous, on a etc. ce genre de choses. Moi ce que je dirais par rapport à tout ça, c'est que déjà on a du bol en fait de le voir aussi au cinéma. C'est-à-dire que en fait chez nous en France ça sort en salle jusqu'à preuve du contraire au moment où on enregistre parce que je sais pas si voilà, mais en fait ça sort en salle alors qu'aux États-Unis c'est un truc qui a été embarqué directement et qui est présenté comme un film HBO original Max, je sais pas quoi, pour leur plateforme de streaming, ce qui est faux. C'est un vrai pur film de cinéma, je veux dire, et quand je disais en faisant une blague que ça serait l'épisode comment dire, bizarro de Manque, voilà, pour le coup ça a été pensé pour être diffusé en salle, bah, ça a été fait comme ça, et voilà. Donc tout ça, en fait, si tu veux, ça se retranscrit. C'est pas seulement, je trouve que c'est pas seulement que ah, c'est cool, il y a des mouvements de caméra, il y a une belle lumière. Je trouve que justement, en fait, si tu veux, ça manque vraiment, à mon sens, en fait, aujourd'hui, quoi. C'est pas juste, c'est beau, c'est, tu vois, ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne dans ce que Zemeckis fait de manière générale, en fait, dans son utilisation du truc, quoi. Après, pour moi, le problème, c'est que Zemeckis a beau essayer de faire un film. Toi, Eric, t'as utilisé le terme monstrueux. Il a beau essayer de faire un film qui est pas monstrueux, il y arrive pas. En fait, c'est un film qui est quand même monstrueux. C'est-à-dire, elle a pas la classe dans J.K. Houston, Anna Tawai. Mais il y a quelque chose de profondément malsain en fait dans son personnage, c'est-à-dire le sourire carnassier, la façon dont il utilise. Pour moi, je pense que c'est une idée de Zemeckis, et je pense que s'il n'avait pas justement fait ce passage par la performance capture, il n'aurait pas réussi ce genre d'élément en fait dans le truc, quoi.
Le Chelsea smile, on appelle ça.
Le Chelsea smile, ouais, à la Alice, ouais, et puis à la Alice, tu pensais au chat de
Cheshire Cat.
Et en fait, c'est ce truc en fait où je pense que malgré tout, le film est plus fin qu'il en a l'air, en fait, à la fin. C'est ça qui me semble, comment dire...
Dans quel sens il est plus...
Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, si tu veux, tu sens que malgré les demandes, en fait, du studio, parce que je pense qu'en fait, le scénar de Del Toro devait être beaucoup trop, sombre, ouais. Gothique, même malsain par moment, en fait, si tu veux.
Un et peu
que, je
comme
pense
le
que,
premier film de Nicolas.
Ouais, mais différemment, en fait, si tu veux. Je pense que ce scénar qui est ancré, encore une fois, dans quelque chose de réel. Ça, moi, je pouvais avoir peur de me dire... Enfin, tu prends un bouquin de Roald Dahl qui est quand même... bon, moi, je trouve un auteur brillant, hein, mais notoirement antisémite. Notoirement, enfin, si tu veux, voilà, et en fait, d'un seul coup, tu essayes de faire un truc qui peut de l'extérieur paraître pour un truc woke où on va dire, bah, il faut des acteurs noirs, en fait, dans ces rôles-là, et en fait, le rendre vraiment crédible, réaliste, dans un contexte historique qui existe, qu'on traite, si tu veux, qui voilà, parce que on parle de l'Alabama des années 60, mais on parle aussi du vaudou, tu vois, c'est un truc qui est un petit peu utilisé dans le film, tu vois, c'est des trucs, tout ça, et le rendre, en fait, crédible, réel, que ça fonctionne, en fait, que tu crois et que t'as pas du tout l'impression d'un seul coup que c'est une obligation du studio, une note du studio qui dit là il faut un enfant noir, là il faut une maman noire, là il faut ci, il faut ça, etc. Parce que c'est.
Non, effectivement, c'est comme ça, voilà. Là pour le coup c'est organique.
C'est organique. Ouais. Bah, tout ça pour moi ça me vend en fait justement l'idée que même, et je pense que Zemeckis lui-même en fait a fait une espèce de coup de Trafalgar là-dedans, il s'est gardé quand même quelques trucs en fait de. C'est du numérique, je fais des trucs, mais ça va être malsain. Il réussit pas toujours son coup, hein, qu'on soit clair. Moi, la scène de la soupe, c'est raté, pour le coup. Je trouve que c'est un des moments où je l'attendais, et en fait, c'est dommage, quoi. Parce que ça aurait pu être beaucoup plus malsain, effectivement, comme dans Nicolas Rogue, où là, c'est vraiment dégueulasse, mais bon, c'est parce que c'est à base de courses focales déformantes et tout
et
ça.
Et puis c'est le climax, dans le film de
c'est le vrai climax, ouais. Alors que là, c'est vraiment une scène de 2 minutes, quoi. Mais voilà, tous ces trucs, en fait, où tu joues avec un personnage, en fait, tu vois, un personnage comme Anna Tawai, en fait, qui pour moi, à la base, est assez, quelque part, pour être assez insipide quand tu la compares à Angelica Houston, pour être assez insipide quand tu la compares au personnage dans le roman, en fait, il arrive à lui donner, justement, une espèce de chair, malgré tout, en fait,
ouais, je dirais
je trouve quelque part malsaine,
mais,
en fait.
Mais ce que je trouve étonnant, c'est que. Comment dire, enfin, moi,
c'est ce que je veux dire par là, c'est ce que j'entends pour insipide, juste pour te dire, pour terminer, c'est en gros. Une version édulcorée des tripes de Tim Burton à la Mars Attacks, ouais, ou ce genre de choses, c'est ça que je veux dire.
Non, j'entends pas. Ouais, ce qui me surprend dans le choix de casting de Anna Tawai, c'est que pour un personnage comme ça, on s'attendrait à une comédienne, comment dire, qui soit crédible dans l'idée qu'elle puisse tuer des enfants. J'aurais vu Meryl Streep dans le film. Bon, j'ai aucun problème à croire que Meryl Streep puisse buter des mômes. Donc, du coup, et c'est aussi le cas dans...
Elle l'a fait dans Le Choix de Sophie, voilà. Malgré elle.
Mais
Anna Taoué, quels que soient les rôles qu'elle interprète, elle a toujours porté, en tout cas pour moi, ce regard d'une, au contraire, d'une victime. Moi, je vois Anna Taoué, j'ai l'impression que quelqu'un l'a traumatisée, quoi, qu'on lui a fait beaucoup, beaucoup de mal quand elle était gamine. Elle a des yeux qui supplient, en fait. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est un peu off, un peu faux dans la façon avec laquelle elle joue au juge Doom, puisqu'apparemment, c'était son modèle de jeu sur ce personnage-là. Là, pour le coup, ça fait vraiment exagéré, théâtral, et pas du tout dans...
Moi, je pense que, en tout cas, pour moi, par la performance capture, il vend le personnage. Ouais.
Et j'ai aussi, et je suis...
Ça parle de son apport de
Zemeckis. Un gros, gros problème avec le gamin.
Moi, je trouve super.
Je le trouve complètement transparent aussi.
Le gamin qui s'appelle Jazir Kadim Bruno.
Il a un côté maladif d'entrée qui est que moi je trouvais assez intéressant, mais moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et j'appuie ce que dit Steph, c'est qu'il y a une vraie bascule par contre, c'est-à-dire que c'est la bascule, elle arrive clairement quand il deviendra. Donc là où je suis emmerdé, mais je suis un peu emmerdé comme tu l'es, c'est que je ne serais pas aussi rude sur le film, parce que d'abord, effectivement, c'est un sacré film de metteur en scène, et que moi, j'ai vraiment adoré la première demi-heure. Je suis vraiment rentré dedans à fond les bananes. Je trouve, là, pour le coup, on parlait de Manque la dernière fois, mais il y a plus d'émotions en 25 secondes chez Zemeckis que j'en ai sur 2h20 chez Fincher. Que c'est moi qui ne me rappelais absolument pas du Nicolas Roeg que j'avais vu il y a très longtemps, il y a quand même quelque chose, effectivement, comme le dit Stéphane, d'assez monstrueux, d'assez dark. Il y a quand même...
C'est Eric.
Moi, je fais la gueule.
Mais je veux dire, pour un film pour les gosses, entre guillemets, c'est quand même assez hardcore. C'est-à-dire, il y a cette dimension... même si c'est pas appuyé, Amérique ségrégationniste, à travers les flashbacks, si tu veux, il y a...
Sur lequel ils ont la bonne idée de pas insister.
De pas insister, exactement.
On la voit arriver à l'hôtel, tout le monde la regarde en se disant, mais voilà, qu'est-ce qu'elle vient foutre là,
et ça s'arrête
net. Mais en même temps, voilà, cette notion du... Donc le racisme, donc tu vois clairement que... qui plus est dans une période qui se voudrait woke comme la nôtre, toute cette question de la différence, tout ça, elle est soulevée. Là où je réfléchis en parlant, en rebondissant sur ce que tu dis, parce que j'ai eu le même sentiment. J'ai eu le sentiment qu'une fois qu'il se transformait en rat, bah le film perdait tout son intérêt, c'est-à-dire tout ce qu'il avait réussi à placer avant n'était pas traité. On part dans un rail exactement comme tu l'as dit, avec même des petits clins d'œil genre Ratatouille à droite à gauche, c'est-à-dire que tu rentres dans l'attraction Disney là, avec l'attraction Ratatouille, t'as l'impression d'avoir exactement la même chose. Ce qui n'enlève pas des instants qui sont incroyables, c'est-à-dire le rapport d'échelle super bien foutu. Il y a vraiment
d'ailleurs c'est bizarre parce que le film, à ce que j'ai compris, n'a pas été tourné en 3D.
Moi je croyais que si, en fait, ou je dis une connerie, mais il me semble.
Sur les fiches techniques, je le vois pas.
Non. Mais t'as l'impression que t'as plein d'effets 3D.
Bah t'as l'impression que t'as des effets 3D quand même.
Il se transforme en souris là, c'est vrai.
Bah ouais, quand il monte la caméra, il retourne derrière.
Dès l'instant, il se met à courir entre les jambes des gens dans les hôtels et tout ça.
Ouais.
Après, il faudra vérifier si c'était prévu pour de la post-prod, mais en fait, ça me paraît très étrange de la part de Zemeckis.
Non, mais ce que je voulais juste dire, parce que je laisse une question en suspens et peut-être certains auront une réponse que je n'ai pas encore. Je trouve qu'il y a, trop d'indices donnés en termes d'image, en termes de structuration du récit par rapport à l'image. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils deviennent des rats, on rentre dans le cartoon. Mais vraiment, t'as l'impression que tu te retrouves dans, limite, la première scène de Roger Rabbit. Il introduit son film avec un projecteur, avec des caméras, tu vois, avec tout de suite une mise en abîme, encore une fois, du matériau filmique. Et j'arrive pas à l'analyser, mais il y a comme un devenir image. Si tu vois ce que je veux dire, du protagoniste, comme si la différence se dissolvait dans les nouvelles images où tout d'un coup ces gens différents deviennent des rats qui se ressemblent, entre guillemets, hein, je veux dire. Et j'ai été très... Et pourquoi je dis ça ? parce que je ne sais pas où il voulait en venir, mais je me dis, connaissant ce mec, tout ce qu'on a apprécié avec ce mec, tout, même dans des films qui ne parlent pas de cinéma, où il y a tout le temps une réflexion sur l'image, je passerai en particulier au film qu'il avait fait avec le type qui marchait là entre les tours,
The Walk.
Non, ouais. The Walk, un film que j'avais adoré malgré le français. Film que j'avais adoré parce qu'il y avait une réflexion sur le cinéma à travers ce sujet-là qui était complètement hallucinante. Et quand je vois tout ce film-là où je m'ennuie clairement dans la deuxième partie malgré la virtuosité de la mise en scène, mais que je termine sur cette espèce, alors je spoil peut-être un peu, mais c'est pas dramatique, où le film se termine sur le devenir des personnages à travers des photogrammes dans différents lieux, et qu'étonnamment, le dernier photogramme, c'est le personnage face à un décor, et derrière, il y a une cascade d'eau qui coule. C'est, toutes les images sont fixes, la dernière image, elle est fixe, avec une cascade d'eau qui coule. C'est pour ça que j'ai réfléchi au truc, et je me suis dit, bon, j'ai pas la réponse de ce que cherche à faire Zemeckis, mais je me dis, il est pas, même s'il est dans les contraintes d'un film particulier qu'il a peut-être pas décidé lui-même, tout ce que tu veux, il y a quand même un travail sur l'image. J'ai envie de te dire, je prends la posture de Rafik Djoumi sur Mank, de dire, il y a probablement du sens à l'intérieur de tout ça qu'on n'a pas encore totalement déterminé. Il y a un effet, il y a un côté lanterne magique. Tu vois ce que je veux dire là-dedans, et beaucoup de scènes sont pensées à travers ce prisme de je regarde à travers un écran. C'est comme ce côté, je suis derrière un rideau quand je regarde les sorcières et je les vois apparaître, je les vois se transformer à travers ce prisme-là, qui n'est pas un prisme direct. Tu vois, donc je me dis, il y a quand même plein d'éléments dans le film qui convoquent l'image, qui convoque, qu'est-ce que ça signifie, qui convoque la bascule entre le réel et la fiction, entre le cinéma traditionnel et le cinéma du futur, qui est quand même quelque chose qu'on voit dans nombreux des films, et c'est ce qui nous plaît chez Zemeckis. Alors peut-être que l'histoire, fondamentalement, ne raconte pas grand-chose d'intéressant dans cette deuxième partie, mais peut-être qu'il faut aller la regarder véritablement dans la façon dont il compose le devenir de ses personnages, dans ce qui n'est plus réellement une réalité. Voilà, donc c'était juste voilà, une réflexion.
Mais surtout, je pense que ce film, il faut voir aussi que c'est un film pour enfants, et c'est un film d'horreur pour enfants, il n'y en a pas beaucoup, et ça, bon, déjà, je trouve l'intention assez louable, et je pense que, quand même, il y a des trucs qui réussissent énormément. Je pense à une scène où la grand-mère du héros lui parle des sorcières, et le héros regarde le plafond et voit les ombres des arbres prendre des formes de sorcières. Je pense à une scène où à un moment il y a un personnage qui n'était pas dans le Nicolas Roeg, je crois, toi qui l'as vu, qui est le personnage du chat de la sorcière en chef, et tu le vois descendre en fait il y a une espèce de plan séquence où tu le vois sortir de la chambre et descendre pour aller espionner les enfants.
Mais aussi, je trouve, alors là ça m'a vraiment surpris, mal foutu.
Ouais, c'est vrai qu'il est.
Oui, mais alors déjà, je suis désolé, mais moi, j'ai un chat. donc un chat, c'est super difficile à faire. C'est comme les bébés. En numérique, c'est pas possible. Tu peux pas acheter. Il y a tellement d'humanité dans un chat. Il y a tellement de vie.
Le truc, c'est que
tu peux pas faire un chat.
Par rapport à Zemeckis, on a un niveau d'exigence forcément.
Non, mais là où il a raison.
On aurait dit le chat de Sabrina.
Non, mais là où il a raison.
Il ressemblait au chat de Sabrina.
Non, mais là où il a raison.
Non, mais je trafique.
C'est qu'au-delà de
l'animation du chat, me semblait fausse.
Toi, t'as une référence qu'on n'a pas là. Toi, t'as sorti une référence qu'on n'a pas.
Que le chat va parler, c'est-à-dire que grosso modo, le chat va être un personnage alors qu'en réalité il n'est qu'un chat.
Oui, tu mais vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'après en fait dans le vrai climax du film qu'il a, bon je vais pas spoiler non plus, mais qu'il a un peu qu'il a décalé à une chambre d'hôtel où là la monstruosité en fait d'Anna Tawai prend tout son sens, et à la fin en fait le chat a un gros rôle à jouer en fait dans tout ce climax que je trouve très réussi moi, et moi je pense que ça c'est le genre de film quand même, bon, moi j'ai pas d'enfants, mais ça te donne envie d'avoir des enfants pour leur montrer ce truc là en disant mais regarde tu vois derrière cette façade là il peut y avoir des monstres, et regarde comme c'est un peu intéressant ça, mais c'est, moi c'est ce que j'avais devant Gremlins, devant Taram et le Chaudron Magique, devant des films qui montrent en fait la vraie apparence des choses.
Pourquoi, ça, c'est très poétique, pourquoi il a réussi ? Il a réussi parce qu'en fait justement en fait le mec il met la technologie aussi au service de sa mise en scène. C'est-à-dire qu'à ce moment-là t'as deux points de vue. T'as le point de vue en fait si tu veux de la grand-mère, ok, qui ne voit pas arriver la sorcière, et t'as le point de vue en fait des enfants, j'allais dire, mais des souris en fait qui sont en dessous, qui sont dans deux logiques entre guillemets de mise en scène différentes, de technologies différentes, si tu veux. C'est-à-dire, t'as en fait, c'est pas de la performance capture à proprement parler. Je ne pense pas en fait que les enfants aient joué les souris en perso. Ah si, ils ont joué. C'est cohérent, en tout cas de la part de Zemeckis de faire ça. Mais en fait, d'avoir en fait, si tu veux, cette façon de jouer sur les deux points de vue pour faire fonctionner la scène, c'est ça qui marche en fait. Le problème, moi, que j'ai avec ce que je dis quand je dis que la fin est ratée, par exemple, si tu veux, c'est que il y a cette problématique que, encore une fois, quand tu te transformes en souris, en fait, le gosse en deux secondes, il fait mais c'est trop cool, je pourrais pas aller à l'école, j'irai pas aller à l'école, j'irai pas machin. Et là, tu sens littéralement. Peut-être que Zemeckis a tendance.
Surtout que la première transformation du film, pour le coup, est relativement traumatisante. Pour moi, c'est la scène la plus dure du film. C'est donc dans le flashback en Alabama que lui raconte sa grand-mère de quand elle était gamine.
Avec le avec la poule.
Sa voisine qui se transforme en poule.
Ça, c'est glauque, ça.
Effectivement, en fait, le
c'est
plan.
C'est encore plus glauque dans le roman où, en fait, la sorcière emprisonne quelqu'un dans une toile.
Dans une toile, oui.
D'accord. Super idée.
Vous n'avez pas parlé des pieds de la sorcière, hein, parce que ça, c'est le truc que j'ai trouvé le plus glauque de tout le film. Moi, j'en ai rêvé tellement je trouve ça dégueulasse.
Mais et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, alors, pas les pieds, mais les bras, en fait, si tu veux, ses mains. En fait, là, tu sens, autant je pense, le sourire.
On peut dire que le film a eu des problèmes avec l'association des gens qui n'ont pas de doigts, là.
Les handicapés, c'est des gens handicapés.
Non, mais il y a un nom spécifique,
oui,
en fait.
Ouais. C'est l'électrodactylie.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Et les personnes qui en souffrent ont pas mal critiqué le film à la sortie, justement.
Non, mais là, il arrive un moment donné, il faut arrêter d'en parler, en fait, de ça, parce que c'est pas possible. Quoi.
C'est en tout cas, le truc, si tu veux, c'est surtout que ce qu'ils ont reproché, en fait, si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, tu me confirmes, Clémence, mais ils ont reproché au fait que ce soit pas quelqu'un qui ait cette condition qui ait joué le rôle.
Ah bon?
Il y a de ça, non? Il n'y avait pas de ça?
Non, moi j'ai pas vu.
Alors je ne suis pas allé creuser
C'est le classique dans... de.
Ce qui est presque.
Ils se projettent, on n'est pas des witch, quoi.
Le film a été critiqué et Anna Tawai a présenté des excuses.
Oui, oui, bon, ça c'est. Tu sens le travail des attachés de presse derrière, quoi, qui disent bon, il faut que tu fasses un petit truc, quoi.
Non, mais c'est marrant parce que c'est, d'une certaine façon, ça attaquait presque ce qui se voudrait être le propos du film.
Bah oui,
il y a quand même l'idée de s'accepter tel qu'on est, etc.
Alors, c'est vrai que. Ce n'était pas dans le roman original. Hein, roman original.
Je pense que pour le coup, cet élément de design, c'est Del Toro. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que Del Toro, il est producteur sur le film, et je pense qu'il est producteur parce qu'il a initié le projet. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment une mainmise finalement artistique à la fin, puisque t'as quand même, on parle de deux talents, on va dire, si tu veux, qui ont l'habitude de faire leur film de leur côté. Hein. Et de pas trop.
Aussi qui est producteur dessus. Non
oui, du coup, parce que c'est leur boîte.
Oui, c'est la boîte.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, je pense que cette idée de design, je l'attribuerais à Del Toro à vérifier, hein, évidemment. Mais pour une raison très simple, c'est que ça ressemble là aussi à la créature un peu de Splice, en fait, qu'il avait aussi designé à l'époque, dont il est producteur. Et du coup, en fait, ça ressemble à une idée qu'il pourrait avoir. On sait que Del Toro, il a des idées, il a vraiment un gros truc sur les designs des monstres et tout ça, etc. C'est quelque chose sur lequel il travaille énormément.
Il y a l'aspect stop motion également, puisque toute la séquence qui est relativement bien foutue aussi, où elle essaie de les attraper avec ses bras qui se tendent. C'est un truc qui sent vraiment le stop motion.
Mais tu vois, pour un film que t'aimes pas, il y a quand même beaucoup de bonnes scènes.
non, mais c'est sur le plan.
Tu vas te faire engueuler.
Il y a des idées de mise en scène qui te lancent des perches. Sauf que tu t'attends que ça retombe, en fait.
Il y a un manque de consistance, de progression du propos.
Mais nous, on aime l'émotion, Rafik. On aime l'émotion, nous. Tu vois, c'est tout.
Mais ça n'empêche pas que la première partie, je répète, moi, je la trouve vraiment méga réussie, quoi. Mais vraiment.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci, justement, par rapport au matériau d'origine? Le fait que ça s'appuie quand même sur un roman, et un roman culte en plus, c'est pas un petit roman que personne connaît, c'est Roald Dahl, il a été édité, il est dans toutes les bibliothèques de France et de Navarre. Moi je l'ai lu quand j'étais gamine. Et le fait que s'attaquer à un monstre de la littérature pour enfants, c'est pas aussi y aller en marchant sur des œufs et en se disant comment je fais pour coller au roman originel tout en imprimant ma patte perso. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce ordre-là?
Collé au roman originel, apparemment, ils n'avaient pas d'énormes choix parce que Roald Dahl avait été pas mal traumatisé par des adaptations de ses bouquins et apparemment est assez, ils sont assez rigides sur le respect, mais en particulier concernant la fin qui n'avait pas été la même pour l'original. Mais bon, voilà, je pense pas qu'il y ait une pression... À ce point-là, quoi. Enfin,
est-ce qu'il n'y a pas une tentative dans la première partie, peut-être impulsée par Del Toro, mais de raconter une autre histoire en plus, et puis que finalement, quand on rentre dans le dur et quand le héros se transforme en souris, on retombe vraiment sur du classique. Moi, je sais que quand j'avais du mal à me faire un avis sur la première partie. À partir du moment où il y a eu cette transformation, je me suis dit c'est bon, en fait, c'est un film pour enfants. Et à partir de là, tout était très clair.
Mais tu vois, il y a un truc qui est intéressant quand tu regardes un film comme ça, si tu veux, c'est que c'est intéressant de faire un comparatif, même si je trouve qu'en fait, les deux films ont leur mérite, hein, chacun de leur côté, avec justement la version de Nicolas Roeg. Nicolas Roeg, c'est une version qui a été un bide à l'époque, qu'ils ont mis d'ailleurs un temps fou à sortir en salle. Chez nous, c'est même pas sorti, c'est sorti en vidéo. Et en fait, c'est un film qui, pareil, en fait, tu sens que les exécutifs ont dit, bon, la fin, il peut pas rester une souris, comme ce qui est dans le roman. Sauf que la fin, en fait, dans le Nicolas Roux, je la trouve beaucoup plus cohérente, malgré le fait qu'il reste pas une souris, que celle, finalement, du Zemeckis, où tu sens, en fait, le renoncement. C'est-à-dire que, oui, on reste fidèle,
c'est vrai,
mais au final, on reste pas fidèle au ton. Et la problématique, en fait, du roman, c'est que quelqu'un comme Roald Dahl, en fait, c'était quelqu'un qui avait un espèce de... Je dirais pas que c'est du cynisme, en fait, mais il avait quelque chose de très, ironique. C'est-à-dire que c'était des romans pour enfants, mais tu pouvais clairement les lire comme un adulte.
Oui, il y avait
adulte,
plusieurs degrés de lecture.
Et voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que, du coup, je trouve que justement, en fait, en essayant de rester fidèle à cette logique-là, même si, pour moi, le récit reste relativement fidèle, hein, c'est juste les éléments, en fait, de toile de fond qui changent, en fait. Mais ça reste plus ou moins fidèle à ce que ça raconte. C'est vraiment, en fait, si tu veux, l'idée de finale, la tonalité, en fait, qui perd complètement la logique, en fait, qu'il y a la Roald Dahl. Donc c'est étonnant. Bon, Roald Dahl est mort depuis 30 ans maintenant, mais c'est étonnant, en fait, si tu veux, que son estate se pose ce genre de questions-là, tout en sachant, en fait, si tu veux, que le studio va leur dire, mais vous pouvez pas, en fait, nous faire vendre un film qui était censé sortir en salle, encore une fois, aux États-Unis, sur le fait que c'est down à la fin, il reste une souris. Tu vois, et donc en fait c'est trop cool, on a un parc d'attractions de souris chez nous dans les trucs de notre grand-mère, tu vois, et c'est là où c'est super, ça marche pas, on est vraiment dans un truc hyper téléphoné, et c'est dommage parce que ça teinte le film, je pense.
Ah, d'autant que c'est appuyé quand même aussi par un bel enfilage de perles en termes de dialogue à la fin, et j'en reviens à l'idée que peut-être que le sens ne se retrouve pas dans ce que ça raconte et ce que ça dit, mais dans ce que ça montre peut-être aussi, oui, à certains moments. Mais voilà, ça mériterait d'être revu sous cet angle-là.
Moi, je me suis posé une question à la fin, où ils montrent quand même qu'ils ont cette volonté d'aller combattre les sorcières avec tous les enfants de la planète, et qu'ils ont cette espèce de camping-car avec le nombre de sorcières qu'ils ont abattues. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont pas en train de préparer le terrain pour une suite et qu'ils veulent pas en faire une franchise
Oui, mais bon, je pense que
ça sonnait un peu comme ça, certainement.
Je pense que c'est un film. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ce film aussi, il a été un des premiers à être balancé sur HBO Max. Alors, certes, Covid oblige, pandémie mondiale oblige, etc., etc. Mais en fait, je pense que c'était un bon test pour Warner, en fait, de balancer ça, en tout cas aux États-Unis, puisque chez nous ça sort en salle. Mais en fait, pour tout simplement pour se dire, on l'envoie au casse-pipe. Je pense que c'est un film qui pose quand même problème. C'est-à-dire que, en gros, pas forcément sur ce que tu viens de dire, sur cette fin-là, en l'occurrence, hein, mais je pense qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une fin. Je pense qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une vraie franchise avec ça. C'est dommage et stupide, je pense, de considérer qu'on puisse faire une franchise avec ce genre de film, avec ce genre de roman. Mais, en tout cas, moi, je vois pas vraiment l'intérêt à partir du moment où tu n'as pas le récit, en fait, initial et les thématiques de Roald Dahl, quoi. Je pense que tu as un meilleur temps, en fait, à adapter, finalement, tout Roald Dahl, et c'est ça la franchise, entre guillemets.
Mais les sorcières, c'est à la mode, hein.
Ça, c'est vrai, mais voilà. Mais après, je pense que c'est pas impossible ce que tu dis, mais c'est extrêmement maladroit dans ce cas, dans le film, je trouve. C'est vraiment pas bien amené, pas bien foutu. Et de toute façon, ça fait partie de la problématique. Mais moi, j'ai pas envie de rester sur l'idée, si tu veux, que. Moi, je trouve que la fin est ratée, mais j'ai pas envie de rester sur cette idée-là sur le film. Je trouve que le film a vraiment des mérites, à lui, des mérites d'adaptation, des mérites, encore une fois, de mise en scène, effectivement, et de jouer, en tout cas, sur l'échelle du suspense et et de la terreur, en fait, si tu veux, avec ces deux jeux de mise en scène différents. On parlait de la scène finale, tu vois, du climax avec le chat et tout. D'arriver à vendre, en fait, des trucs sous couvert de comme c'est du numérique, en fait, les gosses ont l'habitude, tout ça, etc., etc. Et quand même mettre des trucs un petit peu dégueulasses. Moi, elle me fait un peu peur, hein, Anna Taoué dans le film par moment, quoi.
On est à la limite, en fait.
Ouais, c'est là, mais... là, un truc de dégueulasse.
Il y a
quoi,
peut-être ce truc. Bah, vas-y, excuse-moi.
Non, je t'en prie, mais t'as tout à fait raison dans ce que tu dis. Et c'est ça que j'aime bien, quand même, chez Zemeckis, c'est que même quand il rate un film, c'est jamais chiant. C'est-à-dire que c'est un mec qui va réfléchir quand même à chaque fois, à chaque scène.
Ça dépend
pour comment. Ouais, mais en général, quand même, c'est un réalisateur qui pense beaucoup, beaucoup au public. Et moi, son film là, qu'on se demandait en fait si c'était un vrai film de Zemeckis, moi ça me faisait beaucoup penser à La mort vous va si bien aussi, hein, où t'as vraiment ce genre de travail en fait sur la plastique des femmes et la monstruosité qui va derrière,
mais
et tout.
qui est un film qui est étrange aussi, c'est-à-dire mais qu'en oui, fait c'est un film qui aurait pu être beaucoup plus méchant,
bizarre, ouais.
Mais beaucoup plus vicieux en fait, si tu veux, vu le sujet, qu'il ne l'est vraiment au final, quoi. Et pourtant, pour le coup, c'était pas un film pour enfants, La mort vous va si bien, alors que là, pour le coup, je trouve que pour un film pour enfants, justement, alors d'une autre manière que le Nicolas Roeg, parce que Nicolas Roeg a aussi ses mérites là-dessus. Voilà, on n'est pas en fait dans ce que fait Tim Burton ces dernières années, tout bêtement, quoi.
C'est-à-dire mais c'est vraiment des trucs pour un gosse quand même. Hein. Moi, je trouve ça reste chaud quand même pour un film. Pourquoi ça ? Et puis il y a un truc qui me fait me poser question aussi, c'est de se. C'est quelque part, bon, on a dit peut-être qu'il est parti sur ce truc-là aussi parce que son précédent, Marouane,
c'est bidé, ouais.
C'est bidé totalement. Mais en fait, il raconte la même chose que Marouane, en moins bien, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que Marouane a toute cette même notion de deux univers, de l'univers de l'image, de la monstruosité, en plus avec de la violence exacerbée dedans, d'un personnage différent qui va assumer sa différence au final, tout ça dans un contexte sociologique aux États-Unis qui est Happy aussi, qui n'est pas le même que celui des sorcières, mais tout y était déjà, en fait. Tu vois, donc quand bien même tu voudrais aller derrière et te dire je vais me refaire une virginité marketing, quoi, entre guillemets, je trouve ça étonnant qu'ils partent sur quelque chose qui raconte la même chose. Et peut-être qu'aussi, il n'y a pas l'impulse qu'il pouvait y avoir et qui rendait si cohérent Marouane jusqu'au bout et qui faisait un film pour moi extrêmement riche.
Un film sur son cinéma, ouais, hein, quand il citait explicitement Retour au futur.
Oui, mais ça va plus loin que ça. Pour moi, le film allait plus loin que ça et je le trouvais vraiment. J'ai vraiment été, moi, transporté par Marouane. Et là, je me dis, c'est comme si. Tu vois, c'est comme s'il prenait la même chose et puis, je vais le faire plus vite, entre guillemets, tu vois, ou sans m'approfondir dessus, quoi.
Moi, je rajouterais juste. Que sur ce que tu dis, Yann, en fait, que vraiment, en fait, quand j'utilisais le terme de performance là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce film-là, si justement il n'était pas passé par le cadre de la performance capture, il n'aurait jamais existé sous cette forme-là, et sous cette forme plus fine, en fait, je trouve, encore une fois. C'est-à-dire, oui, effectivement, tu peux essayer de faire un film pour enfants, tu peux essayer de faire un film pour le studio, tu peux essayer de te racheter une conduite au box-office, t'es quand même toi-même et tu peux pas t'empêcher de le faire dans ce qui pourrait être fondamentalement être un film de commande, en fait. Ouais. Tu vois, et en l'occurrence, il ne s'empêche pas de le caviarder de ses propres obsessions, ça se voit, ça se sent.
Jusqu'au bout.
Je suis d'accord.
Au début, je me disais, c'est cool, je vais voir un Babe 2. Et puis en fait, c'est dans l'idée, tu vois, c'est-à-dire, je me suis dit, oulala, je vais voir quelque chose qui va aller loin. Et effectivement, comme l'a dit Rafik dès le début, rapidement, la moitié du film.
Mais tu mets le doigt sur un truc, Yannick, quand tu dis ouais, c'est peut-être un peu chaud pour les enfants ce film-là, mais souviens-toi, quoi, c'est comme ça qu'on a commencé la cinéphilie. C'est-à-dire regarder des films qui n'étaient pas exactement pour nous, tu vois, et on les regardait, et c'était cool, les films interdits au moins de 12 ans quand t'avais 10 ans.
Les gosses d'aujourd'hui ne sont pas les gosses qu'on était.
Et donc moi, ça a connecté avec ma cinéphilie de môme, en fait, ce film-là, donc j'ai du mal. Et après, c'est vrai qu'il y a des gros morceaux qui sont ratés.
Oui, mais il y a plein de qualités, mais moi je suis d'accord, il y a énormément de qualités.
Voilà, il y a un monstre bizarre, donc du coup,
Alors, en fin de compte, Sacré Sorcière, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on va pas le voir?
Super intéressant. Puis chez Zemeckis, on va voir tous les Zemeckis, on discute pas. C'est un des rares grands qui reste.
Sauf Seul au monde.
Mais faudrait le montrer à un enfant. Faudrait le montrer à un enfant pour voir si ça le traumatise. Ça, j'aimerais bien.
On va demander à Sacha, la petite Sacha.
Non, mais moi je te dis, je le montre même pas à mon fils. Je sais que ça le traumatise.
Bon.
Mais ce qui va le traumatiser, c'est les pieds.
T'es en train de projeter, quoi.
Ben, on espère qu'on aura des retours des enfants qui nous écoutent sur le répondeur de Saltemps pour un film. À noter aussi, petite précision, que si vous aimez l'histoire, que vous avez aimé le roman, il a été adapté par Pénélope Bagé en bande dessinée et il est sorti cette année chez Gallimard. Et donc, si vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi, vous avez gardé votre âme d'enfant et est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs? Ou au contraire, est-ce que vous avez fini par vous cacher sous votre couette parce que ça vous faisait trop peur? Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On le diffusera dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait d'Un prince à New York 2, la suite du film culte des années 80 avec Eddie Murphy. Une suite dont on se serait franchement passé à en croire les membres de l'équipe. Mais nos auditeurs, ils en ont pensé quoi? Alain, répondeur.
Bonjour Capture Mag, c'est Christophe Anguillet, j'ai 31 ans et je viens de finir le film Un prince à New York 2. Alors moi j'ai pris un petit plaisir à voir ce deuxième volet. Après bon, les petits caméos, on aurait pu quand même s'en passer quand même. J'ai bien rigolé, pas plus rigolé que le premier. Mais malheureusement, ce que je peux dire c'est que Eddie Murphy ne fait que...
Salut Capture Mag, par rapport à Un Prince à New York 2, si je devais résumer le film en un mot, ça serait prédestiception, mélange de prédestiné et déception. Quoi. J'ai vachement pensé à la suite des Trois Frères, Les Trois Frères Le Retour, où on mise sur un gros succès public et critique d'une comédie, on revient quelques années après et on reprend exactement beaucoup de mêmes gags, la même formule quoi, pour faire vachement moins bien. Quoi. C'est du coup, voilà. Une déception, une de plus. Dommage parce que c'est Eddie Murphy avait fait un retour fracassant avec My Name is Dolemite. Voilà, gros bisous à toute l'équipe. Merci pour ce que vous faites et ciao.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Stéphane, Yannick, Rafik et Eric.
Merci Clémence.
Merci.
Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. On dit un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présents sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et joyeux Noël. Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast ? Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien Wheel of Series tous les mardis.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.